On est ravis de vous accueillir chaque week-end. Alain Baraton, bonjour.
Bonjour.
Votre main verte, votre chronique sur un anatomiste, il s'appelle Johann Zinn et les botanistes ont baptisé de son nom le zinnia.
Oui, cet homme est né en Allemagne en 1727 et c'est à lui que l'on doit le tout premier ouvrage exclusivement consacré aux yeux. Et si une fleur porte son nom, vous l'avez dit, le zinnia, eh bien une partie de l'œil est aussi appelée en son honneur la zonule de Zinn. Alors Johann Zinn n'est pas le seul à s'être intéressé aux végétaux et aux yeux et c'est ainsi qu'il est possible de cultiver chez soi des fleurs magnifiques comme les Thunbergia alata, les Suzanne aux yeux noirs, c'est le nom de la plante, une très jolie plante originaire d'Afrique tropicale.
Ah, enfin, cela dit, un cas isolé ne fait pas une généralité.
Certes, mais il existe aussi, non pas une, mais plusieurs plantes appelées œil de bœuf, comme les anthémises des teinturiers, les buffaltesmes à feuilles de saule, certaines variétés de telechia, ce sont des vivaces de la famille des asters, et ce sont des fleurs le plus souvent jaune-orangées, absolument délicieuses, les marguerites de nos jardins, ou encore les mucunaces, ce sont des lianes présentes sous les tropiques.
Et il existe aussi, je crois, une plante appelée œil de perdrix.
Et oui, et il est bien difficile de localiser sur internet cette plante, car lorsque vous tapez plante œil de perdrix, on vous répond immédiatement problème sur la plante des pieds et l'on vous propose des photos de, j'allais dire, pas très agréables à regarder. Dans la nature, l'œil de perdrix est aussi dénommé œillet des prés et il s'agit de la silène flocculi ou encore l'ichnis. Fleur de coucou, c'est un joli nom et c'est une bien jolie plante.
Coucou, évidemment, sur France Inter. D'ailleurs, il ne faut pas confondre l'œil de perdrix et l'œil de paon.
Oui, il ne faut pas non plus confondre l'œil de paon et l'anémone œil de paon. L'œil de paon est originaire d'Amérique centrale et produit là encore de très jolies fleurs à trois pétales qui rappellent un petit peu celles des orchidées. Inconvénient qui explique pourquoi cette fleur est rare dans notre jardin est que la fleur ne vit que le temps d'une journée, contrairement à celle de l'anémone œil de paon qui, elle, dure bien plus longtemps. Alors cette fleur, anémone œil de paon, est originaire de Grèce, mais elle s'est acclimatée dans le sud de la France. Elle fleurit au printemps le plus souvent rouge, mais il est possible d'en voir des roses et parfois même des blanches. Elle pousse naturellement sur les terres pierreuses et ensoleillées, à condition, bien sûr, que ces terres ne soient pas traitées chimiquement. Alors quand on en voit dans la nature, eh bien, on les regarde, on les photographie, on leur parle bien sûr, mais surtout on y touche pas, et on fait sienne cette phrase magnifique du regretté professeur Théodore Monod, celui qui cueille une fleur dérange une étoile.
Oh, phrase de Théodore Monod. Vos réponses, vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter. C'est une Bretonne, elle se présente comme ça. Je suis une Bretonne et elle vous parle de ses hortensias. Avec le redoux, dit-elle, les hortensias que j'avais taillées ont pourtant déjà des feuilles. Alors ne vaut-il pas mieux laisser les fleurs durant tout l'hiver pour que les nouvelles feuilles n'apparaissent pas?
Non, le fait de laisser les fleurs faner ne favorisera en rien l'apparition ou non des nouvelles feuilles. Mais il est vrai que je trouve assez jolies ces fleurs d'hortensia sèches qui persistent sur le végétal en hiver. Imaginez qu'Éric, demain, il y a un petit givre et que le jardin se couvre de blanc. Eh bien, avoir des hortensias avec des fleurs fanées et ce givre qui enveloppe la fleur, c'est un spectacle véritablement merveilleux. Moi, ce que j'encourage quand on a ces arbustes que sont les hortensias, est de simplement couper les fleurs et les tiges qui les ont portées au printemps. Mais laisser des fleurs d'hortensia sèches sur un pied n'encourage pas ou ne décourage pas la production de feuilles. Ça n'a absolument rien à voir.
Elsie, c'est son prénom. Vous parlez de son buis. Son buis est en bonne santé, dit-elle, mais depuis l'automne, des feuilles rousses apparaissent. Pourquoi ? Des feuilles rousses dont elle dit qu'elles ne sont pas sèches pour autant.
Alors le roussissement des feuilles de buis peut avoir trois raisons. La première, les pluies torrentielles. Quand il pleut trop souvent, la terre est en quelque sorte lessivée et le magnésium est dissous. Et la plante a besoin de magnésium. En l'absence de magnésium, eh bien, le buis produit des feuilles rousses. Mais j'ai peur également qu'il y ait deux autres maux terribles qui pourraient justifier ce roussissement. Le cylindrocladium buxicola ou le volutella. Ce sont des maladies cryptogamiques qui provoquent le roussissement des feuilles et le dépérissement du buis. Alors, attendons, je pense que ce sont des pluies. Je sais que les buis en hiver n'aiment pas tellement. Ils souffrent du froid. Ils ne supportent pas, par exemple, la taille quand ils gèlent. Attendons de voir. Arrêtons d'arroser. C'est soit un défaut d'arrosage, soit malheureusement un problème beaucoup plus grave. C'est au printemps qu'on aura la réponse définitive à cette question.
Eh bien, le printemps, justement, Jérôme vous en parle. Au printemps, écrit-il, notre jardin est envahi par les fourmis. et le citronnier et les altéas se couvrent de pucerons. Jérôme précise qu'il traite les plantes avec du savon noir. Ai-je raison? Et puis que faire contre les fourmis?
Très compliqué parce que pucerons et fourmis sont souvent deux insectes liés. Les fourmis exploitent les pucerons pour en tirer le lait. Et oui, tout simplement, elles se comportent avec ces petites bestioles un peu comme nous le faisons nous avec les bovins. Ils exploitent les bestioles et les font venir. Mais il est vrai que le savon noir est un répulsif à insectes très très efficace contre les pucerons, contre les cochenilles et même contre les araignées rouges. Mais il n'y a pas grand-chose à faire parce que on ne va quand même pas encore et toujours expliquer comment décimer une population d'insectes. La nature est en souffrance. Laissons la nature se rééquilibrer d'elle-même. Les oiseaux font généralement le tri. Les insectes entre eux savent se comporter. Arrêtons de vouloir détruire telle ou telle population. Souvent, quand les végétaux sont cultivés de manière naturelle, qu'on a respecté les distances de plantation, la bonne terre, le bon ensoleillement, elle réussit par elle-même, je parle tout seul, à évacuer le problème.
Un bon jardinier respecte aussi les insectes.
Bah oui, mais c'est important.
Bah oui, pourquoi pas, il faut le rappeler. Gaëtan, à présent, nous habitons dans le nord de Rouen, écrit Gaëtan, et nous voudrions savoir quand est la meilleure période pour planter et faire pousser du cerfeuil.
Oh bah le cerfeuil, déjà le cerfeuil, on sait tout ce que c'est la peine, c'est pas la peine de le décrire. Eh bien le cerfeuil se sème soit en godet, donc dans des petits pots, avant de le mettre dans le potager en mars, mais à l'abri. Attention, à l'abri, pardonnez-moi. En avril, généralement, on peut le semer en pleine terre dans les jardins. Nord de Rouen, la région de Rouen n'est pas tellement connue pour des printemps précoces et très chauds. Moi, j'attendais le mois de mai. En le faisant en mai, on est tranquille. Le danger des semis de cerfeuil, c'est que vous mettez la petite graine, la plantule apparaît, le gel, lui aussi, boum. En mai, il n'y a plus de problème.
Un dernier conseil, une balade ou une lecture?
Une lecture qui vous emmène un peu partout. Histoire contemporaine des paysages, parcs et jardins. Ouvrage sublimement écrit et photographié par Jean-Pierre et Tanguy Le Dantec. C'est publié aux éditions Le Moniteur. C'est un ouvrage savant, mais très agréable à lire.
C'était La Main Verte d'Alain Baraton. Merci Alain et à samedi prochain.
À samedi.